Comité de salut public, 21 septembre 1793. En pleine révolution, Jeanne du Barry est rattrapée par son passé.
Le comité décide que la nommée du Barry, demeurant à Louveciennes, sera arrêtée et conduite à la maison de Sainte-Pélagie à Paris pour y être détenue par mesure de sûreté générale comme suspecte d'incivisme et d'aristocratie.
Comment la comtesse du Barry se retrouve pour la seconde fois au cœur de l'histoire de France, c'est l'objet de ce dernier épisode.
J'étais, pour me servir de l'expression de Lebel, un nouveau soleil levé sur Versailles.
Le comité de salut public est instauré en France le 6 avril 1793. Organe politique révolutionnaire, le comité est chargé de protéger la jeune République française des menaces qui pèsent sur elle. Des menaces extérieures, à savoir le danger que représentent les monarchies européennes qui se sont liguées contre les révolutionnaires.
L'armée des tyrans menace de fouler au pied la liberté que la France a plantée sur son sol.
Et des menaces intérieures, c'est-à-dire celles et ceux qui incarnent la France de l'ancien monde et qui pourraient saper le nouveau régime.
Nous sommes les derniers remparts d'une royauté de 1000 ans. Et contre nous souffle la tempête de l'histoire.
Dans ce climat de grande violence, Jeanne du Barry est à nouveau projetée dans le fleuve agité de l'histoire et elle va y perdre sa tête. Mais au fond, que lui reproche-t-on précisément ?
Aujourd'hui, avec le recul du temps, on peut se demander si l'on doit rendre Madame du Barry responsable des faiblesses coupables d'un roi vieillissant qui ne sut résister à la folle passion qu'elle lui avait inspirée.
Je m'appelle Philippe Collin et vous écoutez Jeanne du Barry, Faste et Solitude. Quatrième et dernier épisode, la vengeance des hommes.
Le roi a une nouvelle maîtresse et personne ne la connaît.
Quoi, ce n'est pas l'une d'entre nous ? Si c'est vrai, c'est un scandale !
Nous ne permettrons pas que le roi se prostitue.
De qui s'agit-il ?
Madame la comtesse du Barry !
Songez donc, mon ami, à la brillante destinée que vous pouvez faire. La place de Madame de Pompadour est vacante. C'est à vous de la prendre.
Mais d'où vient cette femme ?
Née parmi le peuple, célèbre par la dissolution de ses mœurs, la publicité et l'éclat de ses débauches.
Alors c'était ça, Jeanne de Beauvernier ? C'était ça, la belle et pure jeune fille ?
À mort ! À mort, la qui t'arrive !
Après tout, le monde est une plaisante comédie. Et je ne vois pas pourquoi une jolie femme n'y jouerait pas le premier rôle.
Ce dernier épisode débute à l'abbaye du Pont aux Dames, un monastère cistercien lugubre, près de Meaux, à l'est de Paris. C'est là qu'est enfermée la comtesse du Barry, après la mort de Louis XV, en mai 1774. Bannie de la cour, l'ennemie de Marie-Antoinette, vit désormais au milieu d'une cinquantaine de sœurs, d'une grande austérité. Elle est mise au secret. Aucune visite autorisée. La déchéance est rude. Par conviction ou par instinct de survie, Jeanne du Barry entre en dévotion et se lie d'amitié avec la mère supérieure, Gabrielle de La Roche-Fontenille. Cet exil forcé s'achève au printemps 1775 lorsque le prince de Ligne, un de ses rares amis à la cour, intercède en sa faveur.
Le roi Louis XVI a de la bonté. Il n'est pas opposé à rapporter l'ordre d'exil à condition que Madame du Barry se fasse oublier. Il veut être, comment dire, garantie. Oui, garantie qu'elle mènera à une existence normale.
Au bout d'un an, donc, Louis XVI accepte de libérer Madame du Barry. Mais à une seule condition.
Madame la comtesse du Barry est autorisée à circuler selon son bon plaisir. Toutefois, elle doit se tenir toujours à 6 lieues au moins de la cour et de la capitale.
Jeanne du Barry est libre, mais strictement interdite de séjour à Versailles et à Paris.
Puis elle a l'autorisation de Louis XVI de rentrer chez elle à Louveciennes, qui encore une fois ne lui appartient pas, lui a été donnée par Louis XV à titre viager, mais qu'elle a profondément transformée et qu'elle considère comme sa maison.
Emmanuel de Varesquiel, historien et biographe de Jeanne du Barry.
Et où elle va accumuler un ensemble d'objets d'art, de statuaires, de mobilier et de peintures absolument extravagants. Probablement l'une des plus belles collections qui existait à son époque. Et Dieu sait qu'il y avait des collections et des collectionneurs parmi les élites de la fin du XVIIIe siècle, qui étaient d'ailleurs presque tous ses amis. Elle avait une très très grande connaissance du marché de l'art. Elle avait des intermédiaires qu'elle envoyait dans les ventes publiques, notamment d'ailleurs le mari d'Elisabeth Vigée-Lebrun, qui était ce fameux marchand de tableaux Lebrun, et d'autres encore.
La peintre Elisabeth Vigée-Lebrun dans ses souvenirs. C'est en 1786 que j'allais, pour la première fois, à Louveciennes, où j'avais promis de peindre Madame du Barry. Madame du Barry pouvait avoir alors 45 ans environ. Elle était grande, sans l'être trop. Elle avait de l'embonpoint, la gorge un peu forte, mais fort belle. Son visage était encore charmant, ses traits réguliers et gracieux. Ses cheveux étaient cendrés et bouclés comme ceux d'un enfant. Son teint seulement commençait à se gâter.
Et donc, elle va vivre cette espèce de douceur de vivre dont parle Talleyrand à propos de la fin du XVIIIe. Vous vous souvenez de son mot, qui n'a pas connu les années qui ont précédé la Révolution française, ne sait pas ce que c'est que la douceur de vivre. Et elle a certainement vécu dans ce Louveciennes tant aimé, qui était une sorte de paradis, de monde clos, et en même temps... parce que clos assez dangereux, avec une réinvention un peu, comme le fera par la suite Marie-Antoinette avec le hameau de la Reine, une réinvention d'un idéal de nature et de ruralité. Elle a été un peu aussi à l'origine de ça. Elle crée des troupeaux, une bergerie, une volière avec des oiseaux exotiques extraordinaires. Et elle rassemble à Louveciennes un ensemble d'amis qui lui resteront fidèles quasiment jusqu'à la fin de ses jours, et de quelques très grands amoureux. Elle a eu une très grande liaison amoureuse avec ce duc de Brissac, qui occupe des fonctions extrêmement importantes, qui est un militaire pour commencer.
Alors, je vais vous demander maintenant si parmi vos ancêtres, il en est qui vous semble particulièrement pittoresque ou auquel vous soyez plus affectivement attaché.
Archives RTF, 1950. Le duc Pierre de Brissac.
Eh bien, il y a le quatrième maréchal de Brissac. Celui-là est un militaire galant, pittoresque, paradoxal, du XVIIIe siècle. Ses prénoms sont Jean-Paul Timoléon. Ce Timoléon, c'est un personnage excessivement pittoresque. Je ne tarirai pas d'anecdotes sur lui. Je peux en dire une. On l'entendait marmonner le matin à sa toilette. La phrase suivante, Timoléon, Dieu t'a fait noble, le roi t'a fait duc. Fais-toi la barbe pour te faire quelque chose.
Et ce Brissac est, à l'instar d'une partie des élites françaises et des élites de cour à la veille de la Révolution, un réformateur dans l'âme, un modéré et un libéral, qui est au fond du côté des idées du dernier ministre des Finances de Louis XVI, qui est Jacques Necker, ce banquier suisse qui lui tient lieu de principal ministre à la veille de la Révolution, au moment de la convocation des États généraux. Et quand on épluche les inventaires de sa bibliothèque et ce qu'elle lisait, non seulement de livres mais aussi de journaux, on s'aperçoit que Jeanne du Barry vivait dans cette mouvance-là, qui était une mouvance à la fois pleine d'illusions et en même temps modérée et réformatrice, une sorte d'aristocratie conservatrice et libérale, si vous voulez. Elle va vite déchanter, parce qu'au fond, le milieu, le premier milieu touché par la Révolution, au fur et à mesure de la montée en puissance de la violence révolutionnaire, c'est le milieu qu'elle fréquente. C'est à la fois le milieu de la cour, qui entre-temps s'est réconcilié avec elle, et le milieu de la haute finance parisienne.
Après sa disgrâce, Jeanne du Barry se fait discrète dans son élégant château de Louveciennes, au sud de Paris. Officiellement, elle y vit en femme célibataire, retirée du monde. Mais elle organise autour d'elle une petite société raffinée. On y croise la peintre Élisabeth Vigée-Lebrun, le duc d'Aiguillon, son ancien protecteur à la cour, mais aussi le duc de Brissac, son amant. Et puis, ce n'est pas tout. Il y a là aussi, à Louveciennes, une jeune femme de 15 ans. Elle se prénomme Betsy, diminutif d'Élisabeth, et sa présence est une révélation de l'enquête d'Emmanuel de Varesquiel. Alors, qui est-elle, cette Betsy ?
On pensait qu'elle n'avait pas d'enfant et je lui ai trouvé une fille. Je l'ai trouvée, alors ça c'est vraiment... Quelquefois, vous savez, on a affaire à des sortes de sortilèges. Le sortilège, c'est souvent une pièce d'archive qu'on découvre quelquefois un peu par hasard. Et en l'occurrence, je découvre l'existence de cette fille dans l'un des codicilles du testament de son dernier amant, qui était le duc de Brissac, qui écrit son testament à la prison d'Orléans en septembre 1792, alors qu'il sait que sa mort est très proche. Les Tuileries ont été prises le 10 août 1792, la famille royale est enfermée à la tour du Temple. Brissac est un personnage clé de cette famille royale sous la Révolution française, dans la mesure où il était le commandant en chef de la dernière garde royale qu'on appelait la garde constitutionnelle, qui est formée dans les derniers mois 1791. Il a été destitué, envoyé à Orléans et devait passer devant la haute cour de justice d'Orléans jusqu'au jour où on le transfère en septembre 1792 à Paris et jusqu'au jour où il est massacré quasiment d'ailleurs devant le palais de Versailles le 9 septembre 1792. Quelques jours avant cette mort très violente, il écrit un codicille à son testament où il lègue une certaine somme d'argent à une fille qu'il ne nomme pas. Or, par rapport à ce que dit Brissac dans son testament du père de cette petite Betsy, dont il dit par ailleurs qu'elle est la fille de Jeanne du Barry, il n'y a qu'un seul personnage qui est mort dans ces circonstances de mort violente sur l'échafaud. Quelques jours après la prise des Tuileries, le 10 août 1792, c'est Arnaud de Laporte, l'intendant de la liste civile du roi, qui est certainement l'amant de Jeanne du Barry et le père de cette petite Marie-Joseph Bécu de Cantigny, qui naît en 1762 et qu'on fait passer via la famille Bécu pour une fille d'un des frères de la mère de Jeanne du Barry, Anne du Barry, qui était Charles Bécu de Cantigny. Certains des contemporains de Jeanne ont soupçonné, étant donné le traitement très particulier qu'aura cette petite Marie-Joseph Bécu, qui va vivre à Louveciennes chez Jeanne du Barry, qui sera mariée par Jeanne du Barry, qui sera dotée très généreusement par Jeanne du Barry. Certains ont soupçonné, mais sans avoir la preuve du fait qu'elle était véritablement sa fille. Il y a quelque chose de très étrange dans les rapports qui ont existé entre Jeanne et sa fille, c'est que Jeanne n'a pas été reconnue par son père et elle-même n'a jamais reconnu officiellement sa fille. Ça, c'est très extraordinaire. Et au fond, elle l'a caché. Je pense que l'histoire des relations sentimentales de cette mère et de cette fille est une histoire tragique qui probablement finit par une brouille. Parce que je ne retrouve aucune lettre et aucun élément d'appréciation sur les relations qui ont pu exister entre elles à partir de 1788-89. Cette petite Marie-Joseph Bécu se marie avec un Boissaison qui va émigrer en 1791 et à aucun moment entre 88 et 91, elle ne rentre à Louveciennes voir sa mère. Et on ne trouve aucune lettre d'elle à sa mère. Je pense que, au fond, Betsy a probablement vécu les mêmes sentiments que Jeanne par rapport à cette non-reconnaissance. C'est-à-dire des sentiments peut-être de colère et de frustration. Je suis persuadé que sa mère lui a dit qu'elle était sa fille, mais n'a jamais voulu la reconnaître officiellement. Au point d'ailleurs que Jeanne va pensionner la fausse mère, la Bécu de Cantigny qui passait pour sa mère officielle, probablement en échange de son silence. Tout est tromperie dans la vie de Jeanne du Barry.
Sire. Sire.
Nous sommes maintenant le 14 juillet. 1789.
Qu'y a-t-il ?
Sire, les Parisiens ont pris la Bastille.
Pris la Bastille ? Pourquoi ? C'est une révolte ?
Non, sire. C'est une révolution.
Lorsque les Parisiens prennent la Bastille, Jeanne du Barry a 43 ans et elle profite de sa vie de châtelaine à Louveciennes, loin de la cour de Versailles. Néanmoins, durant cet été 1789, précisons que politiquement, Jeanne du Barry est légitimiste, c'est-à-dire favorable à la monarchie. Et puis, très vite, la marche de l'histoire s'accélère. Abolition des privilèges, déclaration des droits de l'homme.
Déclaration des droits de l'homme et du citoyen. Article 1er. Les hommes naissent et demeurent libres et égaux en droit.
Et puis en octobre, la famille royale est sommée de quitter Versailles pour s'installer à Paris. Mais Madame du Barry, elle, ne semble pas prendre la mesure de l'orage qui s'annonce.
Le roi quitte Versailles, à Paris, dans nos murs. La liberté nous donnera du pain et des ailes.
C'est une femme qui n'a jamais été prudente. Enfin, comment être prudente quand on a une ascension sociale aussi vertigineuse ?
Emmanuel de Varesquiel.
Elle n'a pas non plus été prudente vis-à-vis de la Révolution française. Je pense que la passion qu'elle entretenait pour ses collections. Je vous ai pas parlé de sa collection de peintures, mais elle a probablement l'une des collections de peintures les plus modernes de toutes les collections parisiennes de la fin du XVIIIe. Les collections de peintures de cette époque sont constituées en grande partie de peintures flamandes ou hollandaises. Et elle, aux trois quarts, possède des peintures contemporaines françaises. Hubert Robert, Vigée Lebrun, Vien, Fragonard et beaucoup d'autres. Et elle avait un tel lien. Et c'est peut-être aussi une forme de rattrapage par rapport à ce qu'elle n'avait pas dans son enfance. Un tel lien d'appartenance avec son endroit, avec son paradis de Louveciennes, avec ses collections, qu'elle ne voulait pas perdre, que c'est probablement à cause de cela qu'elle décide de rester en France et qu'elle va finir par succomber à la Révolution française. Vous savez, il y a cette phrase qu'on prête à Mazarin quelques jours avant sa mort, et qui lui-même était un très très grand collectionneur au Palais Mazarin, qui est maintenant l'Académie française, et qui dit à un moment donné, et dire qu'il me faudra quitter tout cela. Je pense que Jeanne du Barry a dû dire la même chose. Cette impossibilité, contre toute prudence, de quitter ce qui, au fond, constituait sa vie, qui était ses collections et ses objets les plus précieux qu'elle aimait tant.
Jeanne du Barry traverse donc les premiers mois de la Révolution avec une forme de distance et d'insouciance. Cependant, le 10 janvier 1791, un banal fait divers va modifier le cours de sa vie.
2000 louis à gagner et récompense nette est proportionnée aux objets qui seront rapportés. Il a été volé chez Madame du Barry au château de Louveciennes, dit Lucienne, près Marly. Dans la nuit du 10 au 11 janvier 1791, les diamants et bijoux s'y apprêtent.
Cambriolée en son absence, Jeanne du Barry voit ses précieux diamants dérobés par des malfrats. Et en pleine révolution, elle fait un inventaire public.
Un brillant blanc pesant 29 grains, un dit formant pendeloque pesant 28 grains, un dit rond pesant 23 grains, un dit idem pesant 25 grains.
Pour elle, c'est un véritable drame. Mais elle ne mesure pas qu'on n'est plus dans les mêmes temps politiques.
L'historienne Cécile Berly.
Elle va être très mal conseillée, elle va rendre public ce vol et elle va même faire rédiger, puis imprimer et diffuser des affiches expliquant le montant total des vols qui ont été faits et qu'elle promet des récompenses folles pour ceux qui pourraient l'aider à retrouver ses bijoux. On est, en ce début d'année 1791, dans une situation autant politique qu'économique, sociale, absolument noire. Et donc de rendre public, d'afficher dans les rues de Paris qu'un particulier puisse avoir autant de bijoux, de diamants qui lui ont été volés et que ce particulier qui se trouve être la dernière favorite de ce que l'on appelle déjà l'ancien régime puisse se plaindre d'avoir subi un vol, c'est jugé par le plus grand nombre tout simplement comme indécent.
Inconsciente des profonds changements en cours, Madame du Barry s'active pour retrouver sa collection de diamants. Et dans un premier temps, ça fonctionne.
Et donc, ces diamants vont être retrouvés à Londres. Donc, Jeanne va se rendre à Londres pour tout simplement pour récupérer ses bijoux. Et parce qu'elle est dans une situation financière extrêmement compliquée, elle est toujours endettée. Et au fond, les diamants sont pour elle non seulement, pas seulement un objet de plaisir, mais une sorte de poire pour la soif, si j'ose dire, une réassurance par rapport à ses dettes. Et les procès à Londres vont être infiniment compliqués et longs et vont l'obliger à se rendre à Londres à 4 reprises. Et c'est surtout son 4e voyage après la prise des Tuileries en octobre 1792 qui va lui être fatal et qui va évidemment, tout naturellement, conduire les révolutionnaires à la considérée comme une émigrée.
En effet, au retour de son 4e voyage en Angleterre, Jeanne du Barry est arrêtée sur ordre du comité de salut public. Son interrogatoire débute le 21 septembre 1793.
Comment vous appelez-vous ?
Jeanne Vaubernier du Barry, âgée de 42 ans. Demeurant ordinairement à Louvciennes, dans une maison qui appartient tant à moi qu'à la nation.
Avez-vous fait à Londres divers voyages ?
Oui. J'ai effectué 4 voyages en Angleterre destinés à récupérer mes diamants volés.
Il se trouve que l'un des pôles de la contre-révolution et de très loin le plus actif, eh bien, c'est justement au cœur de l'Angleterre, à Londres. Et ça, Madame du Barry, elle le comprend, mais elle ne mesure pas les conséquences, en fait, que ça peut représenter d'un point de vue strictement politique, d'être associée à des individus qui ont fui cette France en révolution. Elle n'est pas là pour fuir cette France en révolution, elle est là pour récupérer ses bijoux. Et c'est là où on sent aussi qu'il y a quand même une forme de fragilité, pour ne pas dire de vulnérabilité chez cette femme. C'est-à-dire que, mine de rien, ces hommes et ces femmes qui ont fui la France en révolution, ce sont essentiellement des aristocrates, des hommes et des femmes de la cour. Elle ne s'est jamais sentie comme étant une femme de la cour. C'est ça qu'il faut aussi comprendre. C'est-à-dire que pour elle, même si elle a, et elle va d'ailleurs en fréquenter, elle va même ouvrir un temps salon parce que elle va subir un certain nombre de déconvenues, elle va rentrer dans un procès, ça va être très long, très compliqué. D'ailleurs, elle ne va jamais récupérer ses bijoux. Ça va lui coûter beaucoup d'argent, beaucoup d'inquiétude. Et puis, puisqu'elle est condamnée à rester des semaines, voire des mois en Angleterre, elle va forcément voir des gens qu'elle a pu rencontrer, qu'elle a pu fréquenter avant la Révolution. Et pour quasiment tous, ce sont des aristocrates qui sont très clairement contre-révolutionnaires.
Vous êtes prévenu d'émigration et d'avoir, pendant le séjour que vous avez fait à Londres, fourni des secours pécuniaires aux émigrés et entretenu avec eux des rapports suspects.
Récapitulons. Jeanne du Barry s'est lancée dans un procès à Londres pour récupérer ses diamants. Et pendant 18 mois, elle s'y rend régulièrement. Or, sur place, elle fréquente les ténors de la contre-révolution qui ont émigré en Angleterre. On la voit même porter le deuil lors d'une commémoration en mémoire de Louis XVI, le roi décapité, le 21 janvier 1793.
Bourreau ! Ne tremble pas ! L'univers te regarde !
Et puis, ce n'est pas tout. Jeanne du Barry fréquente aussi à Londres le duc de Rohan-Chabot, un des leaders du soulèvement vendéen, à qui elle prête de l'argent.
quand vous faites transférer par des banquiers depuis la Hollande plus de 200 000 livres à une tête pensante de la contre-révolution armée en Europe qui va participer grandement au fait de soulever la Vendée dans les semaines qui vont suivre, évidemment, on se pose la question, mais dans quelle mesure feint-elle ou non le fait qu'elle ne fait pas du tout de politique, ou simplement de la solidarité à l'égard de gens qu'elle a pu aimer, apprécier avant la Révolution, et pour lesquels, tout simplement, elle a un peu pitié aussi. C'est-à-dire qu'ils sont aussi dans une situation, faut bien comprendre, ils sont dans une détestation viscérale de ce qu'est devenue la France. Cette France-là n'est pas la leur. Le régime politique qui est en train de se mettre en place ne sera jamais le leur. Et donc, en fait, elle voit aussi des gens qui deviennent, en quelque sorte, apatrides, sans rien, dans un dénuement matériel, la question du dénuement matériel, qu'on soit au cœur de la Révolution ou pas, avec son parcours de vie, ne peut que la bouleverser. Donc voilà, on ne sait pas exactement, ça fait partie évidemment, pas tant des ombres, mais des incompréhensions, et je pense aussi des incompréhensions tout simplement qu'elle a eues en tant qu'individu plongé dans une tempête politique. Peut-être qu'elle a été très inconséquente, peut-être simplement elle a voulu se montrer seulement solidaire. On ne sait pas.
La terreur a commencé. Marie-Antoinette, les Girondins, Bailly ont été exécutés. Sur les quais de l'île de la Cité, les passants marchent frileusement et semblent indifférents. C'est un jour comme un autre. Et pourtant, derrière les deux grosses tours de la conciergerie, on juge aujourd'hui une femme dont le nom évoque toute la douceur de vivre. Jeanne Dubarry.
Après plusieurs semaines d'instruction, durant lesquelles Marie-Antoinette a été exécutée, le procès de la comtesse Dubarry s'ouvre devant le tribunal révolutionnaire le 6 décembre 1793 à 9h du matin dans la salle dite de la liberté.
Citoyens jurés, vous voyez devant vous cette Laïs, célèbre par la dissolution de ses mœurs, la publicité et l'éclat de ses débauches, à qui le libertinage seul avait fait partager les destinées du despote qui a sacrifié les trésors et le sang du peuple à ses honteux plaisirs.
Deux jours plus tard, le verdict tombe.
Elle est condamnée à mort et elle est exécutée le 8 décembre 1793, place de la Révolution, un sombre jour de décembre avec cette charrette d'infamie qui la conduit avec ses banquiers, Van den Hever d'ailleurs, sur 2 kilomètres depuis la conciergerie jusqu'à la place de la Concorde actuelle. Elle a négocié jusqu'au bout, notamment sur la question d'un certain nombre d'objets qu'elle avait cachés dans sa propriété de Louvciennes et dont elle a révélé les caches après sa condamnation à mort, le matin de son exécution, en pensant peut-être qu'elle obtiendrait sa grâce en échange de ses révélations, ce qu'elle n'a évidemment pas obtenu.
Dans la resserre, en face de la glacière, où l'on resserre les instruments de jardinage, l'on trouvera plusieurs bijoux enfermés dans une petite boîte de sapin, sous un escalier, dans une chambre formant garde-robe à côté de celle que j'occupais. On trouvera également des bijoux.
On peut penser que pour ces raisons, elle a protesté contre... On la coupe en deux quand même, hein, comme on a coupé en deux quand même 2700 personnes, place de la Révolution entre 1792 et 1794. On la fera paniquer et sur la charrette et sur l'échafaud. Je pense qu'elle était plus morte que vive, alors même qu'elle était... assise à contresens, comme on faisait asseoir les condamnés à mort sur cette charrette qui l'emmène par la rue Saint-Honoré jusqu'à la place de la Révolution. Par contre, on est sûr d'une chose, par rapport aux rapports qui ont été faits de sa mort par les journaux de l'époque, et notamment par le Moniteur, la Gazette Nationale, c'est qu'elle a crié. On voudra que la plupart des victimes de la terreur aient été d'un stoïcisme absolu par rapport à la mort, ce que je ne crois qu'à moitié. Il y a une très très belle phrase d'Elisabeth Vigée-Lebrun dans ses mémoires à propos de la mort de Jeanne Dubarry. Elle dit quelque chose comme ça. Elle dit « Si tout le monde avait crié comme Jeanne Dubarry, peut-être la terreur aurait-elle duré moins longtemps ». Et en effet, elle a crié sur l'échafaud, mais qui n'aurait pas crié avant de se faire couper en deux?
Mais est-ce que ce cri n'a pas joué aussi contre elle dans ce que vous appelez le mépris de classe? C'est-à-dire que, est-ce que l'aristocratie ne dit pas elle ne sait pas mourir?
Absolument, la on a considéré que sa vie était sordide, sa mort l'est aussi. Il y a une conjonction de coordination absolue entre les deux. Mmh. Et on a exagéré cette panique de Jeanne du Barry. Qu'elle ait crié, sûrement, qu'elle ait supplié et imploré auprès de ceux qui étaient sur le parcours de la charrette, encore un instant, monsieur le bourreau, lui fera-t-on dire. Je pense qu'elle n'a pas plus prononcé ce mot que Marie-Antoinette aurait dit en marchant sur le pied de son bourreau. Excusez-moi, monsieur le bourreau. Ça, ce sont des légendes qu'on invente après coup. Encore un instant, monsieur le bourreau, on le trouve pour la première fois dans des mémoires apocryphes de Jeanne du Barry en 1803.
Les frères Goncourt dans Les maîtresses de Louis XV, 1878. La charrette arrivait sur place de la Révolution à 4h32. Madame du Barry descendait la première. On l'entendit sur l'escalier de l'échafaud, éperdue, désespérée, folle d'angoisse et de terreur, se débattre, supplier. Demandez grâce à l'exécuteur. Demandez encore une minute, monsieur le bourreau. Puis, sous le couteau, criez « À moi, à moi !» comme une femme assassinée par des voleurs.
Le fait de guillotiner la dernière favorite royale de l'Ancien Régime est donc quelque part la dernière favorite royale de l'histoire française. C'est solder l'Ancien Régime lui-même. C'est mettre à mort ce que l'on considérait comme un régime politique totalement corrompu, totalement dégénéré et d'escompter, probablement en vain, que par le sang coulé et la tête tranchée, l'heure d'un renouveau politique est née, qu'il y a un nouvel ordre politique qui est en train d'être mis en place. En tout cas, il y a vraiment cette idée de supprimer et d'humilier jusqu'au bout physiquement cette femme qui a été de façon assez irrationnelle détestée durant des années.
Durant cet automne 1793, plusieurs femmes emblématiques de l'époque ont été guillotinées. Alors, sans en faire une surinterprétation, qu'est-ce qu'on peut en dire?
Il y a dans une histoire des femmes une page essentielle qui n'a pas été écrite suffisamment. C'est cet automne 1793 où on va juger des personnalités féminines. Quatre en particulier, la dernière sera effectivement Madame du Barry, la première étant Marie-Antoinette, Olympe de Gouges, puis Madame Roland et enfin Madame du Barry. Ces quatre personnalités féminines sont totalement différentes, n'ont pas du tout les mêmes profils, n'ont pas du tout eu les mêmes actions et les mêmes rapports à la Révolution. Mais évidemment, elles ont pour premier point commun d'être des femmes. Et ces femmes sont très clairement arrêtées, humiliées. On ne cesse de les humilier. Par exemple, dans le cas de Madame du Barry, elle va passer plusieurs temps de son incarcération au secret, dans des cachots complètement enfermés et dans des conditions vraiment très dures. Il y a vraiment cette volonté de faire quatre grands exemples pour la Révolution et surtout pour les républicaines. Les républicaines étant considérées désormais comme étant, si j'ose dire, les vraies femmes, c'est-à-dire les femmes qui ne sont pas dénaturées, les femmes qui vont accepter de remplir exactement ce que l'on attend d'elles, c'est-à-dire leur fonction domestique dans l'espace fermé de leur foyer. D'ailleurs, on va écrire, entre autres dans la presse, des articles d'une haine incroyable, expliquant que l'on a fait des exemples effectivement terribles, que la Révolution s'est montrée très dure, volontairement, en toute conscience, pour rappeler à l'ordre les femmes. Les femmes qui s'aventurent dans l'espace public, ce sont des femmes dénaturées. Ce sont des femmes dangereuses pour cette nouvelle organisation politique. Et c'est de là aussi où va naître ce mythe d'un 18e, paraît-il, très féminin, où les femmes pouvaient réussir, s'accomplir, avoir des ambitions dans l'espace public, avoir un parcours en politique, avoir un parcours dans l'écriture, avoir un parcours dans les arts. C'est évidemment largement une mythologie, parce que si on dit que ce 18e est féminin, évidemment, il y a eu des femmes absolument extraordinaires qui se sont distinguées avant tout parce qu'elles avaient des compétences. Mais que n'ont-elles pas entendu ? C'est-à-dire qu'elles ont subi, tout au long de leur parcours, une véritable politique de diffamation, pour ne pas dire de destruction, y compris des figures, je pense par exemple à une Vigée Lebrun, qui détestait la Révolution, qui l'a fui en octobre 1789, et qui sera la première à dire « mais en ce siècle, tout était possible pour les femmes ». Ça s'appelle de la nostalgie, et ça s'appelle une réécriture de l'histoire, qui s'est faite dès la fin du XVIIIe et surtout tout au long du XIXe siècle. Madame Vigée Lebrun a un peu tendance à oublier, pourtant elle l'écrit aussi dans ses mémoires, dans ses souvenirs, qu'elle aussi a subi la diffamation dans les pamphlets, dans les libelles, que l'on a attaqué son travail en attaquant la femme, en l'accusant d'avoir un très grand nombre d'amants, qu'on l'a accusée de ne pas être l'auteur de ses peintures, qu'on l'a accusée d'avoir gagné des sommes folles d'argent, non pas parce qu'elle était talentueuse, mais parce que c'était une femme, sous-entendu, parce qu'elle avait des commerces charnels. Enfin voilà, donc ces femmes qui, effectivement, sont magnifiques et passionnantes à étudier au XVIIIe siècle, elles n'ont, il faut le rappeler, c'est pas la Révolution qui ne leur donne pas de droits politiques. Avant la Révolution, elles n'ont aucun droit politique, elles n'ont quasiment aucun droit civil. La Révolution va leur donner quelques miettes, quelques droits civils qui sont effectivement des droits importants, mais dans les faits, ces droits ont été très peu appliqués. Dans la réalité, elles restent avec la Révolution comme elles étaient avant la Révolution. Voilà. Et ça, il faut bien le dire, c'est-à-dire que on peut évidemment parler de misogynie révolutionnaire. Mais il ne faut jamais quand même oublier que ces révolutionnaires sont avant tout des hommes, mais aussi des femmes du XVIIIe siècle. Et que ce XVIIIe siècle, même s'il y a eu des ascensions féminines extraordinaires, qui reste évidemment totalement marginal, ce n'est pas du tout un siècle de l'émancipation féminine. Et par ailleurs, s'il y a bien eu un siècle où on a eu de cesse de rappeler aux femmes qu'il y avait deux types d'espace, l'espace public politique et l'espace privé domestique, et que le leur, c'était l'espace privé du foyer, c'est bien le XVIIIe siècle. Voilà, c'est-à-dire que cette révolution et la misogynie qui est réelle, et la misogynie du XVIIIe ne fait que perdurer au XIXe siècle. Voilà, le code Napoléon, c'est pas Napoléon qui est misogyne, c'est la société française qui l'est depuis, si j'ose dire, toujours. Voilà. Donc très concrètement, cette misogynie, elle n'est pas que révolutionnaire, elle est en fait tout à fait ordinaire.
Nous nous approchons de la fin de ce récit consacré à la vie de Jeanne du Barry. Et même après avoir été guillotinée, la comtesse du Barry est frappée par les préjugés et la vengeance.
Le journal révolutionnaire, le glaive vengeur. Le peuple ne fut pas surpris par la lâcheté de cette infâme courtisane. Madame du Barry mourut comme elle avait vécu.
Les contemporains de sa mort la méprise de toutes parts. Les révolutionnaires considèrent que la panique de Jeanne du Barry sur l'échafaud fut bien la preuve de sa lâcheté. Les aristocrates, eux, estiment que la comtesse du Barry n'a pas su mourir dignement, autrement dit en silence. Ses cris d'effroi ont été la preuve flagrante pour la noblesse de sa vulgarité. Et dès le début du XIXe siècle, se cristallise autour de sa mémoire toutes sortes de clichés.
Madame du Barry étonna l'univers, les ruelles et les carrefours de Paris par sa crapuleuse et dégoûtante débauche. La publicité qu'elle y mit n'eut d'autre borne que celle des choses possibles.
Voyons dans un premier temps, avec l'historien et professeur au Collège de France, Antoine Lilti, comment on peut résumer la vie de Madame du Barry avant sa mort.
Extrêmement visible et en même temps stigmatisée et montrée du doigt et se retrouve donc dans une situation de solitude. Ça, c'est très intéressant parce que certains hommes célèbres vont décrire des phénomènes semblables. Mais évidemment, c'est particulièrement flagrant pour des femmes où la célébrité est aussi un isolement. Donc plus on est célèbre, plus on est connu, plus on se retrouve dans un état de solitude parce qu'on est confronté soit à la jalousie, soit à la méchanceté, soit à la diffamation, et qu'il est extrêmement difficile de se défendre. Ça produit un isolement très difficile à rompre.
Donc, une existence tiraillée entre les fastes et la solitude. Que dire d'autre ?
De toute évidence, c'est une femme intelligente. C'est une femme intelligente qui a quand même un parcours sociale assez exceptionnelle, qu'elle n'aurait pas maintenue sans une intelligence sociale et politique tout à fait hors norme. Par exemple, la question de son rôle politique. Il y a une idée reçue qui est qu'au fond, elle ne joue pas de rôle politique. Alors on l'oppose toujours justement à Madame de Pompadour, qui, elle, avait un rôle politique, culturel, voulu, assumé. Et on considère en général que Madame du Barry, elle, est vraiment dans son rôle de maîtresse royale, et donc a ce rapport d'intimité avec le roi, mais qu'elle ne joue pas de rôle politique autre que celui d'être éventuellement utilisée contre Choiseul.
Le duc de Choiseul, ministre influent de Louis XV, était l'ennemi juré de la du Barry.
Il est tout à fait possible qu'en fait, ce soit, de ce point de vue-là, les historiens sont un peu victimes de la manière dont la du Barry a été caricaturée et représentée, et qu'au fond, elle est un rôle ou une intelligence politique plus grande que ça. Ce qui ne veut pas dire de réinvestir le lieu commun inverse du rôle occulte de la favorite royale. Mais néanmoins, je pense assez crédible qu'elle ait eu une intelligence politique beaucoup plus grande que ce qu'on veut bien en dire.
Est-ce que vous diriez, Antoine Lilti, que la comtesse du Barry fut à son époque une transfuge de classe ? Ou est-ce que c'est anachronique d'employer cette expression ?
Comme expression, c'est évidemment anachronique. Après, est-ce que ça... Bien sûr que ça dit quelque chose, mais à la limite, presque transfuge de classe, c'est à la fois anachronique et presque trop faible, parce que... C'est un terme qui est employé pour une société dans laquelle il y a des transfuges de classe. Il n'y en a pas beaucoup, mais enfin, il y a quand même de la mobilité entre classes. Or, on n'est pas dans une société de classe, on est dans une société d'ordre. Et donc, la distance est encore beaucoup, beaucoup plus grande.
Les trois ordres de l'Ancien Régime étaient la noblesse, le clergé et le tiers-état. Une société extrêmement cloisonnée.
Donc, pour quelqu'un comme Jeanne Bécu, qui vient d'un milieu tout à fait ordinaire, accéder à la cour, à la proximité du roi et à ce centre du prestige social et du pouvoir qu'est Versailles, c'est évidemment, c'est même plus du transfuge de classe, c'est une évolution absolument incroyable, assez rare, parce que alors, il y a quelques-uns, justement, il n'y a quasiment que le phénomène de maîtresse royale qui permet ce type d'accès à la cour, où éventuellement certaines carrières artistiques d'écrivains, mais c'est vraiment un phénomène qui est très très rare et qui d'ailleurs explique énormément de choses dans les attaques dont elle fait l'objet, puisque beaucoup des attaques portent justement sur le fait qu'elle ne soit pas aristocrate. En tout cas, c'est perçu par ses adversaires et par exemple par les choiseulistes, hein, le mépris qui est lié à son origine sociale est très net.
Ce trajet social de Jeanne du Barry fut à la fois honni par les aristocrates et les révolutionnaires, perçu comme une bâtarde d'un côté et comme une sociale traître de l'autre. Et pourtant, il n'est pas impossible que cette ascension sociale de Jeanne du Barry et la célébrité qui allait avec aient été perçues autrement par les couches populaires à l'époque.
On fait toujours l'interprétation, par exemple, de tous ces textes sur la vie privée de Madame du Barry comme des textes, forcément, des libelles scandaleux, politiques, visant à la discréditer. On ne sait pas comment les gens lisaient ces textes. Et le fait que le grand succès des anecdotes sur Madame du Barry soit en fait un texte moins à charge qu'on l'a parfois dit, qui n'est pas un libelle diffamatoire, qui est un texte avec toute une série d'anecdotes, fait qu'on peut faire effectivement cette hypothèse qu'un certain nombre de gens pouvaient s'identifier à ce personnage de Madame du Barry comme justement personnage de parcours social incroyable. Alors, c'est difficile parce qu'on est vraiment du côté de la pure hypothèse, mais c'est pas impossible. Donc, il est tout à fait possible que ces phénomènes d'identification soient aussi un des éléments de la curiosité populaire à l'égard de Madame du Barry.
Avant la Révolution française, Jeanne du Barry a pu susciter une forme d'identification populaire. En résumé, elle vient du peuple, elle me ressemble, donc je peux me projeter dans son destin. C'est une hypothèse. Mais l'image qui perdure, au-delà du XVIIIe siècle, dans la culture populaire, c'est bien celle d'une femme vénale et ambitieuse, qui nourrit l'idée qu'une femme qui se mêle de la vie publique met en péril la société. Et au XIXe siècle, la littérature a consolidé cette image. Prenons un exemple avec Alexandre Dumas. Dumas publie en 1850 un roman intitulé « La femme au collier de velours », dont le héros, un Allemand prénommé Hoffmann, débarque à Paris le jour de l'exécution de Jeanne du Barry. En ville, il croise le cortège qui conduit la condamnée à l'échafaud.
Hoffmann gagna la rue Saint-Denis dans laquelle il s'enfonça. Rue Saint-Honoré, il entendit un galop de chevaux et reconnut des gendarmes. Puis, derrière eux, dans la première brume du soir, il entrevit un pêle-mêle affreux de haillons, de bras levés, de piques brandies et d'yeux flamboyants.
Alors, c'est un roman à multiples entrées. C'est un roman qui n'est pas très très long, parce que Dumas savait faire des choses assez courtes.
L'historienne Annie Duprat.
Où vous voyez la du Barry comme une sorte de point fixe du cauchemar du personnage principal qui s'appelle Hoffmann. Alors l'histoire raconte, c'est un musicien, il vit en Allemagne et il veut venir à Paris. Le roman se déroule pendant la Révolution en 1793 et il raconte, on est donc en décembre 93, qu'il voit les rues se vider, les commerces se fermer, et il arrive près de la Concorde, il entend les cris, il la voit pas, hein, il entend des cris affreux, il décrit ces cris affreux.
Sur la charrette était une femme vêtue de blanc. Des cris s'exhalaient de ses lèvres, de son âme et de tout son corps. La charrette arriva au milieu de son escorte de bandits et de femmes hideuses, ses satellites ordinaires. Mais, chose étrange, toute cette lie ne bouillonnait pas, tous ces reptiles ne coassaient pas. La victime seule se tordait entre les bras de deux hommes et criait au ciel, à la terre, aux hommes et aux choses.
Pauvre du Barry, te voilà donc.
Madame du Barry, c'est elle? C'est elle qui passe là sur cette charrette?
Oui, monsieur.
La pauvre du Barry se tenait droite et cramponnée au col mouvant de la charrette. Quand elle passa devant Hoffmann, elle cria
« Au secours ! Sauvez-moi ! Je n'ai pas fait de mal !»
et faillit renverser l'aide du bourreau qui la soutenait. Hoffmann ne sentait plus son cœur dans sa poitrine. Il se mit à courir après la charrette, comme les autres. Ombre nouvelle ajoutée à cette procession de spectres qui faisait la dernière escorte d'une favorite royale.
Il est assez terrorisé et après, il apprend que la maîtresse de Danton est en train de s'enfuir parce que Danton vient d'être arrêté. Et donc, il la croise et puis il l'invite dans son hôtel pour coucher avec lui. Quand il se réveille, après cette nuit d'amour extraordinairement révolutionnaire, c'est la maîtresse de Danton quand même, la femme à côté de lui est morte. Et donc, il est assez terrifié. Et la police, arrivant, on bouge un peu le cadavre. La tête du cadavre roule par terre. Elle a la tête coupée et elle a encore le collier de velours autour du cou. Moi, quand j'ai lu ce roman, j'ai pensé que c'était la du Barry. Il le dit pas hein, dans le roman, mais c'est assez clair parce qu'il est obsédé par la du Barry. Et le collier de velours rouge, alors juste après Thermidor, la mode des Parisiennes, quand même toujours cet humour, qui quand même en France me plaît bien, c'est de reprendre les choses les plus tragiques sur le mode du persiflage. Elle portait, alors soit elle se faisait peindre ou maquiller une ligne rouge autour du cou, soit elle portait un collier de velours rouge, qui est la trace de la guillotine.
Et alors, qu'est-ce que vous diriez, vous, en tant qu'historienne, de l'image que véhicule Alexandre Dumas sous sa plume de Madame du Barry? Qu'est-ce qu'on peut dire de la du Barry dans ce roman de 1850?
Alors, Dumas, enfin moi tel que j'ai perçu ce qu'il dit de la du Barry, c'est qu'il est effaré par ses cris. On sait que la plupart des prisonniers, enfin des condamnés, étaient silencieux, étaient plutôt pétrifiés, même s'ils ont peur. C'est pour ça qu'on raconte toujours les fameuses religieuses de Compiègne, parce qu'elles, elles chantent un chant chrétien en montant à la guillotine. Et donc, la dernière, sa voix est toute seule. Et ça, c'est authentique, hein, ça a été prouvé. Marie-Antoinette ne dit pas un mot non plus. Louis XVI tente de parler, mais il n'a pas pu parler plus longtemps. Alors, lui, il vous décrit comme si la du Barry était non seulement une femme vénale, mais pas courageuse.
Pour Alexandre Dumas, comme pour les frères Goncourt, mais aussi dans la mémoire révolutionnaire du 19e, Jeanne du Barry est une figure méprisable, une femme à la fois vénale, manipulatrice et lâche. Une femme qui pervertit les mœurs. Un portrait peu flatteur qui a irrigué les représentations jusqu'au 21e siècle.
Cette laïce, célèbre par la dissolution de ses mœurs, la publicité et l'éclat de ses débauches.
En conclusion de cette série historique, commençons par écouter Emmanuel de Varesquiel, auteur d'une biographie toute nouvelle consacrée à Jeanne du Barry et intitulée « Une ambition au féminin ». Alors, quel regard porte-t-il sur cette existence hors norme ?
Le regard d'un historien qui découvre une ascension sociale tout à fait exceptionnelle et qui en même temps se rend compte que c'est une forme de réassurance sur son enfance et les débuts de sa vie, une sorte de recherche désespérée d'une nouvelle identité et d'une reconnaissance sociale. Je pense que ce qui l'anime et ce qu'elle porte en elle, d'un bout à l'autre de sa vie, c'est ce besoin absolu d'une reconnaissance sociale. Et que ce besoin de reconnaissance est au cœur de son ambition sociale. Je pense que la clé explicative de sa personnalité, de sa psychologie et de l'invention de sa vie, elle est là.
Jeanne du Barry, ultime maîtresse royale de la monarchie française, s'est lancée à la conquête d'un monde fastueux, dans lequel elle a cherché avant tout à se fondre, à être comme les autres, peut-être pour conjurer la solitude de son enfance. Jeanne Bécu, devenue comtesse du Barry, a vécu au carrefour de deux mondes, un destin qui illustre toute la fin du XVIIIe siècle.
C'est une des trajectoires féminines les plus intéressantes de tout le XVIIIe siècle. C'est-à-dire qu'au XVIIIe siècle, les femmes qui vont réussir, qui vont essayer de s'accomplir, qui vont essayer de prendre en main leur vie et de se dire « voilà, moi, je ne veux pas, par exemple, être prostituée sur un trottoir. Je ne veux pas être enfermée dans un couvent. » Quelle autre solution avait-elle qu'effectivement de passer par cette prostitution de luxe ? Il faut bien comprendre qu'au XVIIIe, les femmes n'ont pas de place réellement en dehors de l'espace du foyer, de l'espace domestique. Et effectivement, sa trajectoire, alors, si on abandonne toute forme de misogynie, si on accepte tout simplement de se confronter à des parcours de vie accidentés, eh bien, en fin de compte, on s'aperçoit à quel point elle a réussi sa vie. C'est une femme qui a réussi sa vie, à sa façon.
Il est facile de parler négligemment des cimes à ceux qui sont nés sur les sommets. Mais moi, c'est pas à pas que j'ai gravi la pente. Et tant que je n'aurai pas touché de mes mains le but, je ne serai jamais certaine du chemin parcouru.
Jeanne du Barry,
Faste et Solitude. Un récit de Philippe Collin, réalisé par Juliette Medeviel. Lecture, Bérangère Varluzel. Assistance éditoriale, Irène Menahem. Documentation sonore, Frédéric Martin et Romain Couturier. Mixage, Basile Bocquer et Benjamin Orgeret. Jeanne Dubarry, Faste et Solitude, est un podcast original de France Inter.